Bonjour à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui au sommaire en cette matinée du mardi 8 octobre. En Tunisie, le président Kaïs Saïed a été réélu avec un score écrasant de 90,7% lors d'une présidentielle marquée par une abstention record. Au Kenya, le vice-président Rigathi Gachagua a nié hier les accusations de corruption portées contre lui et parle de complot. L'Assemblée nationale vote ce mardi sur sa destitution. Le prix Nobel de médecine a été décerné hier aux Américains Victor Ambros et Gary Rukun pour leur découverte d'une nouvelle classe de molécules ARN minuscules. Au Gabon, alerte autour de la saison des pluies, une période d'angoisse pour les habitants des quartiers à risque de Libreville.
Il y a d'autres qui perdent des diplômes, il y a des enfants même qui meurent dans ces inondations-là. La Sorbonne n'avait pas un quartier tracé.
Reportage à suivre dans la partie magazine de cette édition en sport. La phase de groupe de la Ligue des Champions CAF promet des duels captivants. Les détails dans un peu plus de 10 minutes, juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. En Tunisie, le président sortant Kaïs Saïed a été réélu à une majorité écrasante de 90,7% lors du scrutin de dimanche marqué par un très faible taux de participation. Le point avec Nanit Talani.
Kaïs Saïed a obtenu les suffrages d'un peu plus de 2,4 millions d'électeurs sur 9,7 millions d'inscrits, a annoncé hier l'autorité électorale. Le taux de participation s'est établi à 28,8%, soit le plus faible depuis l'avènement de la démocratie en 2011. Seuls deux concurrents étaient autorisés à se présenter sur 17 initialement. Ayachi Zamel, un industriel libéral, 47 ans, a recueilli 7,35% des voix et Zouer Magzaoui, un ancien député de la gauche panarabe, a obtenu 1,97%. Monsieur Zamel n'a pas pu faire campagne car il est emprisonné depuis début septembre et a déjà été condamné à 3 reprises à plus de 14 ans de prison. Le dépôt des candidatures a été comme une course d'obstacles pour les concurrents. Depuis le printemps 2023, plus d'une vingtaine d'opposants dont le chef d'ENADA, Rached Ghannouchi, et la nostalgique de l'ère Ben Ali, Abir Moussi, ont été emprisonnés. Ces derniers mois, des syndicalistes, avocats, chroniqueurs et des défenseurs des droits des migrants se sont aussi retrouvés en prison.
Au Kenya, le vice-président Rigathi Gachagua a nié lundi les accusations de corruption portées contre lui. Il les a qualifiées de pure propagande et de complot à la veille d'un vote de l'Assemblée nationale sur sa destitution. Mohamed Oumfa.
Rigathi Gachagua est visé par une procédure de destitution inédite lancée le 1er octobre, marquant le point culminant de plusieurs mois de conflit avec le président William Ruto, avec qui il a été élu en août 2022. Une motion déposée par un député de la coalition présidentielle Kenya Kwanza liste 11 motifs de destitution, dont ceux d'atteinte à l'unité nationale, d'insubordination envers le président, ainsi que de nombreuses suspicions de crimes économiques. La motion affirme notamment qu'au cours des 2 dernières années, il a accumulé de manière inexplicable un portefeuille immobilier colossal, estimé à environ 36 millions d'euros. Lors d'une conférence de presse lundi soir, il a assuré qu'il se présenterait ce mardi devant l'Assemblée nationale pour répondre aux accusations scandaleuses qui n'ont aucun fondement selon lui, qui sont de la pure propagande, qui sont un complot pour le chasser du pouvoir en raison d'autres considérations politiques. L'Assemblée nationale doit voter ce mardi sur sa destitution, mais pour être adoptée, elle devra réunir les 2/3 des députés, soit 233 voix. La motion sera ensuite débattue et votée au Sénat, où 45 voix seront nécessaires. En cas d'adoption, M. Gachagua, 59 ans, serait le premier vice-président écarté du pouvoir dans le cadre d'une telle procédure.
En Zambie, au moins 10 personnes sont mortes ensevelies après un effondrement dans une mine du sud-ouest du pays, a annoncé hier la police zambienne. Le point avec Georges Léonard Sagno.
Au cours de leurs activités minières, la terre s'est effondrée sur elle, a indiqué la commissaire de la police centrale Charity Muganga Chanda dans un communiqué. L'accident s'est produit dans une mine du district de Mumbua, dans le centre du pays. 9 corps ont été extraits et 6 mineurs vivants ont été secourus selon la police. L'un d'eux a succombé à ses blessures, portant à 10 le nombre de morts. La police zambienne précise qu'elle travaille activement pour déterminer le nombre exact de personnes qui se trouvaient dans la mine au moment de l'accident. La Zambie compte de nombreuses zones minières et les accidents mortels sont fréquents. Fin août, 8 personnes sont mortes dans l'effondrement d'une mine de gravier et il y a presque un an, près d'une trentaine de mineurs ont perdu la vie dans l'effondrement d'une mine de cuivre.
Les États-Unis déconseillent aux Américains de se rendre au Rwanda en raison de la présence du virus de Marburg. Selon l'annonce faite par le département d'État qui fait passer son avis de voyage de la catégorie 2 à 3 sur une échelle sur 4, ce qui signifie ne pas y voyager, le virus de Marburg provoque une fièvre hémorragique similaire à Ebola. Au Rwanda, le bilan depuis l'annonce des premières infections à ce virus le 28 septembre s'élève à 12 morts des travailleurs médicaux pour la plupart.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, a assuré que sa rivale démocrate Kamala Harris, actuellement vice-présidente des États-Unis, a laissé rentrer des milliers de meurtriers dans le pays via sa politique migratoire. Nombre d'entre eux ont assassiné bien plus d'une personne et ils vivent aujourd'hui tranquillement aux États-Unis, a déclaré Donald Trump, avant d'ajouter, je cite, « Ces meurtres, vous savez, je pense que c'est dans leur gêne. » La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a fustigé un discours ignoble, perturbant, haineux, qui n'a pas sa place aux États-Unis. Dans cette même veine de la campagne présidentielle, dans un entretien à la chaîne CBS, la candidate démocrate à la Maison-Blanche, Kamala Harris, a expliqué que si elle est élue, une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine n'aurait pas lieu bilatéralement sans l'Ukraine, ajoutant que l'Ukraine doit avoir son mot à dire dans l'avenir de l'Ukraine. Son rival républicain, Donald Trump, assure qu'en cas de retour au pouvoir, il mettrait fin à la guerre en Ukraine avant même une éventuelle prise de fonction en janvier, mais il ne précise pas comment il s'y prendrait. L'ouragan Milton, qualifié d'extrêmement dangereux, est désormais classé dans la catégorie maximale et doit toucher aujourd'hui, d'ici demain, disons, en Floride, déjà affecté par le passage destructeur d'Hélène fin septembre. Les détails avec Jean-Roger Billon.
Le centre américain des ouragans a élevé lundi Milton au plus haut de l'échelle en catégorie 5. L'ouragan s'accompagne de vents pouvant aller jusqu'à 250 km/h et va entraîner des bourrasques violentes sur le Yucatan lundi et mardi avant de toucher la Floride dans le sud-est des États-Unis. Milton suscite beaucoup d'inquiétudes dans cet État américain, moins de deux semaines après le passage dévastateur de l'ouragan Hélène et 10 jours après les inondations dévastatrices qui ont entraîné la mort d'au moins 230 personnes. Les autorités de Floride ont exhorté les populations de l'agglomération de Tampa à évacuer, le gouverneur Ron DeSantis précisant que Milton allait rester un ouragan pendant tout le temps qu'il traversera cet État. 1500 soldats sont actuellement mobilisés et s'ajoutent aux milliers de secouristes et membres de la garde nationale.
Le prix Nobel de médecine a été décerné aux Américains Victor Ambros et Gary Rufkun pour leur découverte d'une nouvelle classe de molécules ARN minuscules. Selon le jury du Nobel de médecine, cette découverte a débouché sur des essais qui sont en cours contre le cancer ou les maladies rénales cardiovasculaires. Ambros, 70 ans, est biologiste à la Massachusetts Medical School et Rufkun, 72 ans, est professeur de génétique à la Harvard Medical School. Un an après, des dirigeants surtout occidentaux ont redit hier leur horreur au souvenir des attaques atroces commises par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023 et leur attachement à la paix. Le président Joe Biden s'est dit totalement engagé pour la sécurité d'Israël tout en concédant que le 7 octobre est aussi une journée noire pour les Palestiniens. Israël payera tôt ou tard le prix du génocide qu'il commet depuis un an et qu'il poursuit à asséner le président Recep Tayyip Erdogan de la Turquie. Le pape François a fustigé l'incapacité honteuse de la communauté internationale et des grandes puissances à obtenir un cessez-le-feu. Les candidats à la présidence américaine Kamala Harris et Donald Trump ont aussi marqué le premier anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël. La vice-présidente Harris a planté un grenadier dans le jardin de sa résidence officielle en compagnie de son époux Doug Emhoff. De confession juive, nous ne devons jamais oublier le cauchemar du 7 octobre, a lancé son rival républicain Donald Trump, assurant que cette attaque n'aurait jamais eu lieu s'il avait été au pouvoir. Il s'est rendu sur la tombe d'un rabbin ultra-orthodoxe à New York avant d'organiser une cérémonie dans une de ses propriétés en Floride. À moins de
à un mois, de la COP29, les nations semblent toujours dans l'impasse concernant les négociations sur l'aide climatique. Les divisions portent sur qui paie et combien. Cette COP débutera 6 jours après l'élection présidentielle américaine.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
L'Ouganda perd chaque année environ 2,3 milliards d'euros à cause de la corruption, soit l'équivalent de près d'un quart de son budget annuel, a déclaré lundi la chef de l'agence anticorruption du pays. L'Ouganda connaît régulièrement des scandales de corruption. Le Royaume-Uni et Washington ont sanctionné en avril et mai des responsables politiques, dont la présidente du Parlement, Anita Among, en raison de faits de corruption significatives. L'Algérie annonce la révision de l'accord d'association avec l'Union européenne à partir de 2025. Le président Abdelmadjid Tebboune a dénoncé un accord asymétrique qui a favorisé un déficit commercial chronique avec l'Union européenne sans contribuer significativement à la diversification de l'économie algérienne qui reste largement dépendante des exportations des hydrocarbures. Les sécheresses et inondations actuelles sont un avant-goût de l'avenir, a prévenu lundi l'ONU à propos du changement climatique. Dans un nouveau rapport, l'Organisation météorologique mondiale signale une aggravation à l'échelle planétaire de l'insuffisance des ressources en eau. L'eau est soit trop abondante, soit insuffisante, plongeant de nombreux pays dans des situations de plus en plus difficiles.
Les nouvelles sportives à présent avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yakuba.
La phase de groupe de la Ligue des champions CAF promet des duels captivants.
Le tirage au sort annonce une compétition excitante et des affrontements de grande intensité. Fort de ses 12 titres en Ligue des champions CAF, Total Energy, Al Ahly, le club égyptien emblématique, a hérité du groupe C, reconnu comme le plus redoutable de la compétition. Cette poule inclut aussi le CR Belouizdad d'Algérie, Orlando Pirates et le stade d'Abidjan qui participent cette année pour la première fois à la phase de groupe. Quintuple vainqueur du tournoi et demi-finaliste de l'édition précédente, le TP Mazembe se retrouve tête de série d'une groupe A alignant dans ses matchs les Young Africans en pleine progression, un Al Hilal résolu ainsi que le MC Alger d'Algérie. Le groupe B est composé des Mamelodi Sundowns qui ont été couronnés champions d'Afrique en 2016 et visent à remporter un deuxième titre. Ils se rendront à 2 reprises au nord pour affronter le Raja Casablanca et l'AS FAR. On y retrouve également le Maniema Union FC représentant la RDC qui participe pour la première fois à la phase de groupe de la compétition. Le groupe D constitue un défi de taille pour l'AS Tunis, finaliste de la saison précédente, qui devra affronter les ambitions de Pyramide FC ainsi que celles de 2 équipes que sont GD Sagrada Esperanza d'Angola et Djoliba AEC du Mali.
Et puis cette triste nouvelle, Johan Nikes, artisan du football total néerlandais, est mort.
Johan Neeskens, mort dimanche à l'âge de 73 ans, était l'un des artisans du football total néerlandais et l'un des piliers de la grande équipe des Pays-Bas des années 1970 aux côtés de Johan Cruyff, dont il a été le plus fidèle lieutenant en club également à l'Ajax et au Barça. Ce milieu de terrain était doté de 2 jambes infatigables et étonné par sa capacité à remonter le terrain à toute allure pour jouer tant en défense qu'en attaque. Il comptait 49 sélections.
En équipe de France, la lumière s'allume de nouveau pour Paul Pogba. Salut Didier Deschamps.
Le sélectionneur de l'équipe de France s'exprimait au sujet de la réduction de la suspension pour dopage de Paul Pogba de 4 ans à 18 mois, une décision du tribunal arbitral du sport TAS. Il aura des étapes à franchir, mais c'est une excellente nouvelle. Il pourra rejouer à partir de mars, a ajouté l'entraîneur sur le site de la Fédération française de football. La pioche, 91 sélections et 11 buts en bleu, peut espérer retrouver en 2025 l'équipe de France avec laquelle il a été champion du monde en 2018. Pogba, toujours sous contrat avec la Juventus Turin, avait subi un contrôle antidopage positif, mais il a toujours plaidé une contamination accidentelle via un complément alimentaire prescrit par un médecin consulté aux États-Unis.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yacouba Ouidraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Au Gabon, alerte au retour de la saison des pluies, une période d'angoisse pour les habitants des quartiers à risque de Libreville. Beaucoup de familles s'apprêtent ou vivent déjà les dégâts des premières pluies. Problème, la ville manque d'un plan d'urbanisation. C'est l'une des raisons des constructions anarchiques, y compris sur les lits de rivière. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzi.
Chaque année, avec le retour des grandes pluies, c'est l'incertitude des lendemains à la Sorbonne. Pour parer au pire, Junior et ses voisins ont mis en place une stratégie de gestion des risques d'inondation qui fonctionne plutôt bien dans ce quartier du 3e arrondissement de Libreville.
On ramasse même le gravier à la sortie là-bas, à la rentrée. Si l'eau amène, nous on ramasse, on vient stocker ça chez nous là. Si vous voyez chez nous ici, nous maintenant, quand même on peut dire qu'on est quand même un peu à l'aise. Un peu à l'aise parce qu'on a arrangé la route là jusqu'à la rentrée. Parce que avant, les enfants ne peuvent pas passer ici, sortir par ici. Même les gens du quartier, ce n'est pas facile.
Bien loin de là, l'angoisse de plusieurs familles, elles sont installées dans un secteur marécageux du sud de la ville. Avant même la période des crues, Justin, sa femme et leurs enfants ont déjà des pieds dans l'eau.
Voici ce qu'on vit, mais les enfants ont vu, voici ma haine, l'hôtel malade, pas depuis les jours. Vous voyez ?
Les moins résilients de ces terrains, autrefois forêts de mangroves, ont dû abandonner leurs maisons aujourd'hui cernées par les eaux de pluie.
Mais tous mes locataires sont partis, nous tous, il n'y a pas que moi seul, je passe beaucoup le quartier. Nous sommes 50 familles à vendre à nous-mêmes. Voici mon frère banquier assis là, tout ça derrière c'est sur lui, il n'y a plus personne là-bas. Pardon, on demande les aides.
Retour à la Sorbonne, un bidonville au cœur de Libreville. Pour Stéphanie qui y habite, la saison des pluies, c'est synonyme de cauchemar.
Il y a d'autres qui perdent des diplômes, il y a des enfants même qui meurent dans ces inondations-là. La Sorbonne n'est pas un quartier tracé. On n'a pas des endroits où on ne sait pas comment faire, mais on est obligé de vivre dans un quartier anarchique parce qu'il n'y a pas d'abord de plan pour ça. Donc on souffre, on ne sait pas comment faire avec ces inondations-là.
Les opérations d'assainissement dans les zones à risque sont à l'épreuve de l'incivisme des populations. Anissé est employé du service d'hygiène de la mairie de Libreville.
On commence là tous les jours. Après combien de minutes là, hier là, j'ai ramassé. Voilà. D'ici 15 heures là, vous allez voir tout ça là. Qui n'a fait qu'à faire son travail. La mairie aussi fait son travail, mais vraiment, je suis désolé. C'est l'incivisme de la population environnante.
Pour les spécialistes des questions climatiques, l'ampleur des calamités pendant la saison de pluie au Gabon rappelle l'urgence de renforcer les politiques publiques de prévention de catastrophes avant cette période de tous les dangers. Ismaël Obianzé pour VO Afrique, Libreville.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Togo, des activités génératrices de revenus sont initiées à l'endroit des femmes pour leur permettre une certaine autonomisation. Dans le village de Momé-Katioyé, dans le sud du pays, le projet d'appui aux femmes transformatrices de noix de palmiste a transformé la vie de milliers de femmes productrices de l'huile rouge. Grâce à des équipements modernes de transformation de noix de palme, elles sont passées à une production plus aisée, bien loin des pénibles pratiques artisanales. De Lomé, le reportage de notre correspondant Kossi Oussou.
Dans la salle des machines construite grâce au projet d'appui aux femmes transformatrices de noix de palmiste, Dame Dojome Adjovi, productrice de l'huile rouge à Momé-Katioyé, montre fièrement les matériels qui permettent aux femmes de sa localité de ne plus connaître des difficultés dans leur travail.
La production de l'huile de palme est l'activité principale de la majorité des femmes de notre localité. Mais ce n'était pas simple. Vous imaginez une seule personne traitant un tonneau de noix de palme. Cela prend plusieurs jours. Il faut piler au mortier ou y aller avec les pieds. Parfois, Nous faisons appel à nos enfants pour nous aider. C'était pénible.
Désormais, c'est un lointain souvenir pour Dodjome Adjovi et les autres femmes productrices avec les matériels modernes comme les malaxeurs, extracteurs d'huile rouge motorisée, le cuiseur de noix de palme, le concasseur de noix palmistes électriques et autres presses huile palmistes électriques qui leur ont été fournies.
Nous avons été formés pour la maîtrise des machines et nous travaillons sans problème. Avec ces équipements, le travail est plus facile et très rentable. Une seule journée suffit pour sortir des dizaines de bidons d'huile de 25 litres. Le projet a considérablement amélioré nos conditions de vie et de travail.
Organisée en coopérative avec un conseil d'administration et ayant goûté aux bienfaits des réalisations du projet dont l'électrification du village, les femmes productrices d'huile de Mom et Katihoué en veulent plus pour la plénitude de leur bonheur.
Le plus gros problème que nous avons ici, c'est la disponibilité de l'eau. Nous voulons que le projet nous aide à avoir un forage. Ça va nous faciliter la tâche.
Comme nous produisons déjà de l'huile, moi je voudrais qu'on nous forme à la fabrication du savon. Ça va nous permettre d'augmenter notre chiffre d'affaires.
Assimiou Rahim Alimi, le coordonnateur national du projet, salue l'implication exemplaire des femmes de la communauté de Mom et Katihoué et affiche sa volonté d'en faire plus pour elle.
Ici à Mom et Katihoué, on sent de la volonté, on sent l'engagement et vous voyez même toutes les ambitions qui sont formulées. Pour la communauté de Mom et Katihoué, c'est un modèle pour nous et je crois que les doléances ou les besoins qu'ils expriment ne peuvent pas constituer des problèmes, je crois qu'on les accompagnerait.
Selon Assimiou Rahim Alimi, la gestion du projet par les femmes de Mom et Katihoué doit être prise comme un exemple pour les autres communautés. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
L'attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre l'an dernier a déclenché un conflit qui est devenu le plus meurtrier de l'histoire récente pour les journalistes et les professionnels des médias. Au moins 116 journalistes, presque tous palestiniens, ont été tués. La VOA s'est entretenue avec des reporters qui ont couvert ce conflit et des analystes des médias sur les raisons pour lesquelles il est essentiel d'avoir des journalistes sur le terrain qui peuvent travailler librement. C'est un sujet de Christina Caicedo-Smith et Liam Scott. Récit Antoine Roger Bolamba.
L'assaut du Hamas du 7 octobre a fait au moins 1200 morts en Israël et 251 personnes ont été enlevées. Cette attaque a déclenché une guerre qui se poursuit encore aujourd'hui. Jody Ginsberg est directrice générale du Comité pour la protection des journalistes.
Plus de journalistes ont été tués au cours des 10 premières semaines de la guerre qu'il n'y en a jamais eu dans un seul pays au cours d'une année entière.
Selon les comités de protection des journalistes, le bilan au 1er octobre est de 111 journalistes palestiniens, 2 israéliens et 3 journalistes libanais. En outre, 35 personnes ont été blessées, 2 sont portées disparues et 54 ont été arrêtées. John Daniszewski est le vice-président de la société de presse et rédacteur en chef pour les normes.
Il y a aussi de très grands défis en termes d'accès à l'information pour les journalistes. Et d'après mon expérience, il s'agit de l'information la plus polarisante que nous ayons jamais eue à traiter au cours de ma longue carrière de journaliste.
Tarek Ajaj est correspondant à Gaza pour Mondo Est, une publication en ligne qui couvre les territoires palestiniens, Israël et la politique américaine. Il a vécu toute sa vie dans la ville de Gaza.
Chaque fois que je marchais sous les drones et les avions de guerre israéliens, j'avais l'impression qu'à chaque seconde, ils pouvaient me bombarder, me tourner autour, parce que je sais qu'ils ciblent les journalistes et je sais qu'ils ne veulent pas que quoi que ce soit en provenance de Gaza parvienne à la population.
Fondé en tant que site d'information progressiste, Mondo Ouest a fait l'objet de critiques pour ce que certains considèrent comme des opinions anti-israéliennes. Le gouvernement israélien a nié à plusieurs reprises qu'il s'en prenait aux journalistes, mais le CPJ et d'autres organisations affirment que les forces israéliennes devraient être tenues responsables du nombre élevé de morts dans les médias. Presque tous les journalistes tués sont des Palestiniens. Jody Ginsberg du CPJ.
Ils sont aussi les seuls à pouvoir rendre compte de la situation à Gaza, car aucun journaliste étranger n'a été autorisé à y pénétrer. Ils portent donc tout le poids de la responsabilité de rendre compte de l'impact de la guerre sur Gaza.
Les blessures et la mort ne sont pas les seuls risques auxquels les journalistes sont confrontés.
Certains des dangers ne sont pas seulement physiques, mais aussi liés au cyberharcèlement, au harcèlement et à l'intimidation des journalistes.
Les Nations Unies ont condamné les attaques contre les journalistes, indiquant qu'il y avait des rapports inquiétants d'attaques contre des travailleurs des médias, malgré le fait qu'ils soient clairement identifiés. En réponse à un rapport de l'ONU, l'armée israélienne a déclaré qu'elle ne tire pas délibérément sur les civils, y compris les journalistes. Ajaj se souvient de tous les articles qu'il a couverts depuis le 7 octobre. Certains, dit-il, ont été dévastateurs à écrire, mais il sait qu'il doit continuer à rendre compte de ce qui se passe.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Ici aux États-Unis, à environ un mois de l'élection présidentielle américaine, les candidats démocrates et républicains ont une semaine à charger. L'ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris vont continuer à rallier leurs partisans dans des états pivots alors que l'on craint que la rhétorique ne devienne de plus en plus incendiaire. Véronica Balderas Ecclesias de la VOA nous en parle. Le récit est de Michel Joseph.
Le candidat républicain Donald Trump s'est montré provocateur samedi en s'adressant à ses partisans lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie. C'est dans cette même région qu'un tireur l'a blessé à l'oreille en juillet dernier pendant un meeting de campagne. Il a souligné que cet incident, le premier de deux tentatives d'assassinat, ne faisait que renforcer sa détermination à remporter l'élection présidentielle.
Au cours des 8 dernières années, ceux qui veulent nous empêcher de réaliser cet avenir m'ont calomnié, mis en accusation, tenté de m'exclure du scrutin, et qui sait, peut-être même essayer de me tuer.
Le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a été invité à commenter les remarques de Trump et celles similaires faites au cours du week-end par le fils de l'ancien président, Eric.
Je ne pense pas qu'ils disent que le Parti démocrate a tenté un attentat. Je pense qu'ils font allusion à ce que nous avons tous dit. Ils doivent revoir leur rhétorique à la baisse.
De son côté, la candidate démocrate Kamala Harris jongle entre ses fonctions de vice-présidente et son programme de campagne. Samedi, elle s'est rendue en Caroline du Nord pour promettre un soutien fédéral aux communautés touchées par l'ouragan Helene. La veille, Harris avait fait le point sur l'état de la course à la présidence.
La course sera très serrée jusqu'à la fin.
Le député démocrate Adam Schiff a été interrogé dimanche dans l'émission Meet the Press de la chaîne NBC sur sa conviction que Harris et les démocrates peuvent remporter une victoire écrasante en novembre.
Compte tenu de la division du pays, la victoire pourrait être écrasante avec 100 000 ou 80 000 voix d'avance dans les états clés du champ de bataille. Je pense donc que nous sommes bien placés pour gagner, mais c'est encore très serré.
La vice-présidente sera occupée par une série d'engagements médiatiques cette semaine, surtout des apparitions dans des talk-shows populaires. Elle devrait aussi faire campagne dans le Nevada jeudi et en Arizona vendredi. Le site web de la campagne Trump indique que l'ancien président se rendra en Pennsylvanie mercredi pour prononcer un discours à Scranton et tenir un meeting le même jour dans la ville de Reading.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yacouba Ouedraogo, Georges Léona Sagnou à la réalisation. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.